partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Mauger.
Axel Mauger, qui fut professeur à l'Université de Montréal et qui est l'auteur d'un essai intitulé « Gaston Miron, une passion québécoise », présente sur cet exceptionnel chantre du Québec une série de 4 émissions. Voici la 4e de ces émissions et les 3 premières sont disponibles dans notre médiathèque en écoute et en libre téléchargement.
Pour cette dernière émission, une très bonne nouvelle. Vient de sortir un album Miron, édité, écrit, présenté plus exactement par Marie-Andrée Baudet, qui a été sa compagne. Nous le savons, Gaston Miron est mort en 1996, et dans cet album, nous retrouvons toute sa vie, bien entendu illustrée, et la vie de cet homme qui, bien entendu, nous l'avons dit au cours des dernières émissions, est un grand personnage de l'histoire culturelle moderne du Québec. Je cite quelques mots de cet avant-propos de Marie-Andrée Baudet. « Certaines vies d'écrivains ont une présence et un rayonnement exceptionnels. Liées de façon plus étroite et manifeste à l'histoire contemporaine, elles inspirent les lecteurs et souvent même permettent de mieux apprécier les richesses singulières de l'œuvre. La vie de Gaston Miron est indéniablement de celle-là. Né à la veille de la grande crise économique qui a constitué une rupture majeure dans l'évolution des pays industrialisés et le quotidien des communautés, il allait accompagner et souvent précéder les mouvements de modernisation du Québec et son ouverture au monde. Gaston Miron, issu d'une famille modeste et unie, parmi des gens et des paysages qui resteront toujours pour lui de vibrants appels au dépassement, Miron n'a jamais soustrait l'écriture aux circonstances de sa vie, tout en réussissant à en dégager sa poésie afin de parler dans l'universel. L'homme rapaillé, bien que tributaire de ses paysages originels, ne saurait s'y réduire, mais ses paysages, au même titre que les grandes rencontres qui jalonnent sa vie, n'ont pas été sans laisser une forte empreinte sur l'œuvre et sur le cours de son existence. Cet album, je vous le recommande, il s'intitule « Album Miron » avec l'avant-propos de Marie-Andrée Baudet, publié aux éditions de l'Hexagone. C'est un très beau volume, ce qui fera un très joli d'ailleurs cadeau de Noël, ne le cachons pas. On le trouve en France, à la librairie du Québec, rue Gay-Lussac. Et donc, vous avez là un livre qui retrace en photos, en textes, en documents, en archives, qui retrace vraiment une vie exceptionnelle d'un homme que j'ai bien connu et je dois reconnaître la force rayonnante, le rayonnement de cet homme qui, de l'Hexagone à la revue Liberté, à la revue Parti pris, au spectacle poétique, aux relations avec la France. Et je vais vous donner un petit exemple de cet homme qui adorait Paris, qui adorait les châteaux de la Loire, notamment, et de cet homme qui, un jour, m'a avoué « Ah, les meilleures poires au monde, ce sont les passe-crassanes ». Donc, voilà un homme qui était farouchement l'homme de son pays et en même temps un farouche admirateur, un vibrant admirateur de cette France dont il était un fier descendant. Alors, j'ai encore dans cette dernière émission, et ça sera la conclusion pour cette émission sur Miron, un texte magnifique que j'avais demandé à l'époque, lorsqu'il était vivant dans les années 70, un texte qui est tout à fait inédit, sauf évidemment dans le livre dans lequel je l'ai publié, mais un texte d'un très grand poète français qui s'appelait Jean Cassou. Et Jean Cassou a été le créateur du musée d'art moderne à Paris. Lorsque je lui ai offert le livre « L'homme rapaillé », je lui ai dit « Écoutez, si, monsieur, ce texte poétique vous plaît, auriez-vous l'extrême bonté d'écrire quelque chose sur ce texte ?» Eh bien, à ma belle surprise, j'ai été très heureusement surpris de constater que quelques semaines plus tard, Jean Cassou m'a envoyé ce texte, un texte sur Gaston Miron qui s'intitule « Gaston Miron et l'exigence de la langue française ». Avant de lire ce texte, je dois rappeler que Jean Cassou est l'auteur des fameux 33 sonnets composés au secret, qu'il a écrit pendant la guerre, lorsqu'il a été arrêté par la milice, et que de se retrouver en prison pendant des semaines et des semaines et des semaines, voire quelques mois, il n'avait ni papier ni crayon, et cet homme qui s'ennuyait évidemment fortement, qui était privé de tout, de sa famille bien entendu, qui pouvait être bien sûr pris par les livré aux Allemands, eh bien cet homme, dans sa cellule, a composé dans son esprit, comme il n'avait bien entendu pas de papier ni de crayon, ses sonnets, 33 sonnets composés au secret, et dès qu'il est sorti de prison, il a eu de la chance de pouvoir sortir, dès qu'il est sorti de prison, il les a aussitôt mis sur papier, etc. Donc, le poète Jean Cassou, poète de la Résistance comme Aragon, Éluard et tant d'autres, a écrit sur Gaston Miron et l'exigence de la langue française. Voici son texte. Un poète français du vieux continent qui écrit par simple droit de propriété séculaire ne saurait ne point se déclarer sensible au drame des poètes québécois écrivant en cette même langue. Celle-ci que ce poète français du vieux monde écrit, qu'il parle, lui, et celle-là que les choses, elles aussi, parlent autour de lui depuis longtemps, depuis toujours. Il les nomme, mais elles aussi se nomment du même nom, du seul et même nom, car elles n'en ont pas d'autre. Les choses et lui n'ont qu'une langue, il n'y a pas à s'y tromper. Et il n'y a pas à y redire. Toutes les choses, tout ce qui est, les animaux même, précise Rimbaud, le poète en a la charge. Ce sont choses de son lieu et de son séjour. Il les fait entrer dans ses dénombrements et ses compositions, il les décline et les conjugue, et elles se plient tout aisément à cette grammaire, car elles ont la même grammaire que lui. Mais voici que les choses n'entrent pas, voici qu'elles résistent, se refusent, elles ont un autre nom, elles ressortissent à un autre lexique et à une autre syntaxe, elles sont autres. L'opération poétique se révèle unilatérale, une velléité personnelle, un semblant de pure oraison spirituelle. De l'autre côté, il n'y a pas de réponse. De l'autre côté, le nom reste en suspens. L'évocation et la convocation restent sans effet. Tel est le cas des poètes français dont la langue est historiquement nécessairement le français, mais énoncée dans un milieu dépendant de circonstances et de conditions particulières, voire contraires, milieu conséquemment sourd, sans accord, sans harmonique, possédant sa tonalité à lui, autant dire pour celui dont la voix s'efforce d'y résonner, atone. Poète français de France, serions-nous des privilégiés ? Nous avons, comme d'ailleurs tout poète, même parlant chez lui et parmi les choses de chez lui, assez de difficultés pour prétendre au moindre privilège, mais au moins n'avons-nous pas cette difficulté-là. Seulement, nous comprenons son étrange cruauté. Cette difficulté n'est pas naturelle. Non, nous ne sommes pas des privilégiés. Au moins, pouvons-nous dire que nous allons dans le sens et le courant de la nature, mais une foi qui parle seule sans écho ne saurait avoir sa place dans aucune forêt. Mais une voix qui parle seule sans écho ne saurait avoir sa place dans aucune forêt. Ainsi en est-il pourtant de la voix des poètes québécois, et si l'une d'entre elles parvient à nous faire sentir d'une façon particulièrement saisissante la profondeur de cette peine, c'est bien la voix du poète Gaston Miron. Gaston Miron, parmi ses compatriotes, parmi ses amis et parmi beaucoup d'autres poètes, aussi éminemment valable, est un de ceux qui le plus valablement ont exprimé cette peine. Et non seulement par ses écrits et son action de militant, et non seulement par l'expression poétique de cette peine, mais par toute expression poétique traita-t-elle d'un autre sujet, de tous les sujets que l'infinité de l'univers et de la vie offre à tout poète. Car en cette peine, en ce désert, le fait même d'écrire, le fait même du poème, est déjà peine dans le désert et désertique expression de la peine. Si bien même qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'en ses extrémités, le poème le plus essentiellement poème, le fait, l'acte poétique véritablement essentiel serait le non-poème. Au silence extérieur répondrait seul, comme à la fin du plus triste poème de Vigny, le silence de la personne. Mais est-ce une solution ? Gaston Miron se l'est demandé dans des pages qu'aucun poète ne pourrait lire sans se sentir remué jusqu'au fond de lui-même, c'est-à-dire jusqu'au fond de son plus intime souci, là où s'éveille la plus secrète et vive exigence de sa langue. Toute langue a son exigence, toute langue est exigence pour ceux qui, en quelques zones de la planète, que ce soit par le français, cette exigence est celle de la langue française, car cette exigence est concrète et il faut en parler concrètement. Je ne parle point ici de l'exigence de la langue en général, c'est-à-dire de toutes les langues. Elles sont admirables et toutes génératrices de poésie admirables. Mais ici, je parle de ma langue, non point certes plus admirable que les autres, mais mienne, à nous qui la parlons. Il n'est nulle contrainte à quoi nous avons à quoi nous nous sentons plus passionnément désireux de nous adapter que celle-là qui nous est si savante, si riche en ressources, si féconde en surprises, en harmonie inouïe, en trouvailles, comblant le cœur et l'esprit. On n'en juge rien qu'à lire les poèmes de ce grand poète de langue française qu'est Miron. Poème tendu, anguleux, sans cesse à l'affût de quelques rencontres de haute qualité et de grand relief, poème aux façons rudes, vives, libres, poignantes, poème véritablement fait pour dire l'amour, l'amour non point en tant que chose aimable à chanter, mais en tant que chose grave à vivre et s'il le faut difficile. Car tout compte fait, la difficulté est le principal agent de ce lyrisme et c'est elle qui principalement lui donne son prix. Elle n'est pas seulement dans les choses dites, mais dans le fait de dire les choses, dans le fait même de cette poésie. Et nous voici revenus au drame essentiel et spécifique d'un lyrisme québécois déchiré entre son possible et son impossible. L'homme québécois est là, le québécanthrope, comme dit Miron avec son âpre ironie. Oh, il y a une dérisoire et féroce violence dans le propos québécois. Il est donc là, cet homme d'amertume, et il parle, il a la parole. Mais une angoisse est consubstantielle à cette parole et met cette parole en question. Elle n'est pas le seul acte, la seule émission, la seule réalité d'elle-même. Elle fait en même temps question cet acte, cette émission, cette réalité sont en même temps doute et problème. Doute sans virtuelle certitude, problème sans solution, question et question sans réponse. Certes, ce n'est pas une grande découverte que de penser que tout se ramène à du politique et à de l'économique, ou plutôt que tout commence au politique et à l'économique, mais les débats et les luttes de cet ordre sont aussi animés de motifs de l'ordre du spirituel et du moral et qui sont affaires de poètes. En l'occurrence, ceux-ci ont très particulièrement leur mot à dire et qui est le mot lui-même, la parole, leur souffle organique et vital. C'est en des circonstances critiques comme celle-là qu'apparaît de toute sa force d'évidence l'identité de la poésie à l'être. Dès cette évidence et de par cette évidence, l'être n'est plus concept, abstrait, chiffre, métaphysique, mais énergie expansive et besoin de se saisir lui-même en s'intégrant l'autre, les autres hommes, les choses, le monde. Si je veux être, il faut que l'univers soit. Si je parle, il faut que le dialogue ne suscite avec la parole du monde et dans ma langue, il ne peut y avoir traduction d'un langage à l'autre. D'où, pour le poète, en cette situation tragique, une poésie issue d'un silence accepté ou refusé, de toute façon, une poésie encore imbue et ruisselante de silence, tirant son assurance, c'est-à-dire son art, car tout art est forcément assuré, et celui de Miron pris ici comme lumineux exemple et très assuré puisque c'est un grand art, tirant donc son assurance de son incertitude, de ce perpétuel désespoir de demeurer seul, de se crier en vain, poésie de déchirement et d'incomplétude, et dont la plénitude est dans le déchirement et dans cette incomplétude. Cette poésie n'a donc point actuellement sa réponse hors d'elle-même, elle n'en agit pas moins, mais d'une autre sorte d'action à savoir sur elle-même, et comme dans l'effort d'une solitude acharnée à sa manifestation, donc à son dépassement, je ne sais trop si disant tout cela, je comprends bien la poésie québécoise. Il me semble qu'elle est à l'âge du paradoxe, mais il me semble aussi que le paradoxe n'est paradoxe que parce qu'il implique le contraire de son absurdité, à savoir une espérance humaine. Ainsi se termine la quatrième partie de cette émission consacrée à Gaston Miron, auteur francophone mondialement reconnu aujourd'hui. Merci, chers auditeurs. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette émission dans notre médiathèque.